8h15 à Matadi, 8h15 pour vous qui êtes à Kananga. C'est la seconde partie de ce journal. La CENI a entamé depuis 2 semaines une campagne de sensibilisation de différentes parties prenantes au processus électoral. Quelques partis et regroupements politiques ont tour à tour été reçus au siège de la CENI pour échanger sur l'évolution de ce processus dans son ensemble, surtout sur la problématique du projet d'usage de la machine à voter que vulgarise la CENI pour la tenue des élections du 23 décembre 2018. C'est important outil de travail de la CENI n'a pas encore acquis un large consensus au sein de la classe politique congolaise. Nous en parlons dans ce dossier que nous propose Askenzik Betayoro.
UNC, MLC et AR ont été parmi les premiers partis et regroupements politiques de l'opposition à échanger avec la CENI. Tous ont salué l'évolution du processus électoral avec les travaux de traitement et consolidation des données du fichier électoral. Par ailleurs, l'usage de la machine à voter projetée pour les élections du 23 décembre 2018 pose encore problème. Visiblement, les démonstrations faites par la CENI pour convaincre ses interlocuteurs sur le bien fondé du recours à la machine à voter n'ont pas encore abouti au résultat attendu. Vital Kamere donne le point de vue de son parti.
Nous, INC, nous ne sommes pas encore convaincus qu'il faut utiliser cette machine à voter. Elle peut créer beaucoup de problèmes.
Cette machine a été au centre d'un débat houleux entre la CENI et le MLC de Jean-Pierre Bemba lors d'un entretien de plus de 2 heures. Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, doute quant à elle du contenu de cette machine à voter.
En venant visiter, nous avons vu la machine devant. Mais la programmation, les applications, le contenu, nous n'avons pas la maîtrise de cela.
À l'alternance pour la République, on juge illégal le projet d'usage de cette machine à voter au scrutin de décembre 2018. Délice Sanga, coordonnateur de AR.
D'autant que le cadre légal aujourd'hui interdit, nous nous sommes interdits nous-mêmes à recourir au vote électronique.
Par ailleurs, le groupe de l'opposition qui travaille maintenant au sein du gouvernement a salué les efforts fournis par la CENI pour rationaliser les dépenses des élections à travers l'innovation de la machine à voter. Le ministre d'État, Jean-Lucien Boussa.
Nous sommes assurés que le processus est correctement mené parce qu'il tient compte des préoccupations exprimées par la classe politique lors du dialogue. C'est la suite de l'accord du 31 décembre et nous sommes satisfaits.
Le rassemblement Kassavu doit échanger aussi avec la CENI, mais ces regroupements politiques auxquels appartient le Premier ministre Bino Tshibala ne s'est pas encore dit oui ou non à la machine à voter.
Ce que nous pouvons faire, c'est d'aller consulter la base pour que cette machine, nous puissions la certifier en disant nous avons confiance en elle ou pas.
La majorité présidentielle est d'accord pour l'utilisation de la machine à voter. Elle affirme que cet outil technique de la CENI va diminuer le coût de l'impression des bulletins de vote. Du côté de la CENI, le langage est conciliant face aux critiques des parties prenantes au processus électoral. Corneille Nanga.
Il y a des doutes qui persistent sur tel ou tel autre aspect du processus. Nous avons pris bonne note et la CENI, en tant que pouvoir organisateur des élections, décidera.
Pour quelques observateurs, seule la certification de cette machine par les experts nationaux et internationaux, telle que demandée par la CENCO, pourra peut-être pousser la population, selon eux, à faire confiance à cette machine à voter.
Revue de presse.
L'essentiel de la presse aujourd'hui sur la RDC avec vous, Jean-Désiré Kanyama.
Forum Désastre titre à la une, les grandes manœuvres ont commencé, politiques bien entendu, et ce, en prévision des élections de décembre 2018. Forum Désastre trace un gros plan sur un week-end qui aura donné de grands bouleversements sur l'échiquier politique RD Congolais. Lancement de la machine électorale de Katumbi en Afrique du Sud, annonce de la candidature de Félix Tshisekedi à la tête de l'UDPS, perçu par ailleurs par ce journal comme un premier pas dans la course à la présidentielle. Rencontre Palou, MLC. Et à ce quotidien quinois de se poser une série de questions, simples coïncidences et donc hasard de calendrier, ou simplement choc des agendas, difficile de trancher, conclut Forum des As. Mais pour le potentiel, l'alliance en construction Palou-MLC est une redoutable coalition pour les élections de décembre 2018 qui se joueront autour d'un jeu d'alliance. Le potentiel indique que le parti lumumbiste unifié a décidé de prendre un autre virage 12 ans après l'accord conclu en 2006 avec la majorité au pouvoir. Et de conclure qu'entre le Palou d'Antoine Gizenga et le MLC de Jean-Pierre Bemba, des signes probants d'une alliance se mettent en place. L'avenir n'y croit peut-être pas. Ce quotidien titre à la une, Alliance Palou-MLC du bluff ou du sérieux. Après avoir jeté un pavé dans le microcosme politique congolais, vendredi dernier à Kinshasa, un communiqué de presse signé le même jour par les MLC et les PALU a révélé le rapprochement amorcé entre les deux parties. À l'instar des forums des As, l'avenir questionne. Est-ce la fin du couple PALU-MP? Est-ce vrai que le président Joseph Kabila est lâché par le vieux Antoine Gizenga Fundji? Est-ce normal qu'un parti libéral, en l'occurrence le MLC, convole en juste noce avec un parti de gauche, le PALU notamment, récemment admis comme membre observateur à l'international socialiste? Est-ce l'échec de l'ambitieux projet de construction de la gauche congolaise annoncé par le PALU, lequel projet n'a jamais malheureusement vu le jour? À ce stade, précise l'avenir, il s'agit d'un mort-né, d'un mariage contre nature sans lendemain, et ce, selon les observateurs politiques, renchérit ce quotidien. Le Phare s'intéresse au mars du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018 et titre à la une « Zéro faute pour le laïc catholique ». Le quotidien de l'avenir Lukusa précise que c'est la ministre des Droits humains, Marie-Ange Moussobekwa, qui a dévoilé samedi dernier les contenus du rapport de la commission d'enquête mixte instituée par elle-même le 1er février 2018 en vue de faire la lumière sur les allégations d'atteinte aux droits de l'homme enregistrées lors de ces manifestations. Il appert que de bout en bout, aucun grief ne retenu contre le comité laïque de coordination, écrit le Phare.
L'invité.
Il s'agit ce matin de Jean-Lucien Boussa, ministre congolais du commerce extérieur qui vient de Kigali au Rwanda, où il a participé à une réunion des ministres en charge du commerce extérieur de l'Union africaine. Ils ont adopté un projet d'accord de création d'une zone de libre-échange au niveau du continent. Jean-Lucien Boussa s'entretient avec Billy Van Lutumba sur les enjeux de ce projet d'accord.
Jean-Lucien Boussa, bonjour. Vous revenez du Rwanda où vous avez participé à une réunion avec les autres ministres africains du commerce extérieur avec qui vous avez adopté un projet d'accord de création d'une zone de libre-échange. À quoi tient cette initiative?
Depuis 2015, les chefs d'État et de gouvernement africains ont décidé de pouvoir doter l'Afrique d'un marché commun, donc d'une zone de libre-échange continentale africaine. Depuis deux ans donc, le ministre du Commerce de l'Union africaine s'attelle à pouvoir construire cette zone de libre-échange souhaitée donc par les chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil des ministres de l'Union africaine qui s'est tenu à Kigali pendant deux jours a eu le mérite d'avoir finalement adopté le projet d'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un marché commun africain où les barrières tarifaires et non tarifaires vont être complètement éliminées. Et donc, en Afrique, nous allons commercer aussi facilement que ça se fasse au niveau de l'Union européenne.
Quels sont les principaux avantages avec la création d'une telle zone et quels sont les produits qui sont concernés?
Je crois qu'à ce stade, la grande question est de savoir quels seront les bénéfices pour l'ensemble de l'Afrique. Vous savez que le commerce intra-africain ne dépasse pas 3% du commerce à cause de beaucoup de facteurs, notamment les barrières tarifaires, non tarifaires et d'autres obstacles liés à la connectivité, c'est-à-dire le transport, les voies de communication. Et donc, il est clair que lorsque l'Afrique s'ouvre à l'intérieur d'elle, ça sera un facteur déterminant pour la croissance économique de l'Afrique. Parce que ça va permettre l'accroissement du volume des échanges intra-africains. Et donc, par conséquent, les pays africains ont un challenge. Ça veut dire accroître le niveau des productions intérieures pour permettre finalement d'avoir des économies compétitive et entre l'Afrique, entre les pays africains, de pouvoir interchanger. Il y a beaucoup de produits que nous pourrions échanger entre nous, à commencer par les produits agricoles pour lesquels l'Afrique est le mieux dotée. Chaque pays africain produit les biens de consommation qui sont désirés par d'autres pays africains. On devrait échanger entre nous. Il y a les produits manufacturés. Des pays africains disposent des industries où beaucoup de produits manufacturés sont produits. On devrait échanger entre nous. Je pense que vous savez que le Congo, comme le Congo Kinshasa, comme le Congo Brazzaville, comme l'Angola, comme la Zambie, comme le Zimbabwe, comme l'Afrique du Sud, le Maroc, etc., que ces gens encore sont capables de pouvoir produire de nombreux produits manufacturés.
Monsieur Jean-Lucien Boussa, les ministres africains du commerce extérieur ont adopté le projet. Comment et quand ce projet sera-t-il concrétisé?
Les ministres du commerce n'ont fait qu'un travail préparatoire. C'est une réunion qui prépare les sommets extraordinaires de chefs d'État qui sera tenu à Kigali, si la date ne changeait pas, le 21 de ce mois, donc le 21 mars. C'est clair que les chefs d'État, déjà le 21, vont signer l'accord. Mais dès lors que l'accord est signé, des étapes suivent. Il y a des étapes d'implémentation de l'accord. Ça, c'est une question d'espère, c'est une question de gouvernement respectif de chaque pays. Donc, puisque l'accord n'est pas signé, ne dévoilons pas les secrets. Je dois dire aux Congolaises et Congolais qu'il n'y a pas de crainte à cela. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qu'il faut capter pour permettre finalement à la République démocratique du Congo d'être une économie compétitive comme les autres. Il nous appartient donc, en tant que gouvernement, de pouvoir implémenter ces décisions qui seront prises par les chefs d'État de pouvoir adapter l'évolution de notre économie, la construction de notre économie à cette nouvelle donne qui s'appelle le marché commun africain.
En supprimant les barrières douanières, ceci n'affecterait pas négativement la maximisation des recettes provenant des taxes douanières pour la République démocratique du Congo.
L'adhésion à la zone de libre-échange continentale aurait un impact sur notre économie, sur nos finances publiques, sur le social et sur l'emploi, naturellement. Mais quel impact, positif ou négatif? C'est la question. Le commerce entre la République démocratique du Congo et les pays africains, lorsque vous voyez les tableaux ou les graphiques du niveau du commerce, il est tellement faible que son impact sur les recettes publiques qui provient de la douane est insuffisant. Déjà, entre l'Afrique, c'est 3%. Vous comprenez que lorsque nous libéralisons, il n'y a pas d'impact significatif sur les recettes publiques. Mais l'impact vient à quel moment? Positif, naturellement. Vient à quel moment? À partir du moment où nous savons avoir des intrants au moindre coût, à partir du moment où nous savons acheter aussi au moindre coût, à partir du moment où, par l'effet des économies d'échelle, la République démocratique du Congo va faire face à un marché de plus ou moins 1 milliard de consommateurs et que nous sommes capables de vendre nos produits à ces milliards de consommateurs, ça sera plutôt bénéfique pour les finances publiques qui se retrouveront renforcées. Donc la crainte qui consiste à considérer que l'ouverture au commerce international, l'ouverture au commerce intra-africain par l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires, qui impacte négativement sur nos finances publiques est une crainte non fondée. Bien au contraire, nous avons intérêt à nous lancer vers ces projets, à nous lancer sur cette perspective, parce que ce sera très bénéfique pour la RDC et pour les pays africains.
Monsieur le ministre, nous vous disons merci.
Okapi Sport.
Nous parlons sport avec vous, Enoch Matondo, bonjour.
Bonjour Babel Mpongo, bonjour à tous les amis sportifs.
Alors la première nouvelle concerne le joueur Chef Damaisha.
Oui, Babel, il va jouer cette saison à Zanoko FC de la Zambie, parti de Charcons FC de Kinshasa pour retourner dans le TP Mazembe, son club formateur. Il n'aura pas assez de temps de jeu, il sera donc prêté par la suite pour une saison à Bichikom, un club basé à Ndola en Zambie. Ce milieu offensif ancien de Charcons FC va finalement taper dans l'œil du sélectionneur de Zanoko. Ce club va le solliciter et lui fait signé en janvier dernier un bail de 2 ans. Directement, Chavda sera mis sur la sellette avec un match d'entame en Ligue des Champions de la CAF que son club va même perdre par 2-1 devant le club choisi de Mbabane Swallows. Chavda Maisha était d'ailleurs l'unique buteur du club, mais il dit que c'est un but qui n'a pas eu de valeur. Il va expliquer, nous l'avions joint au téléphone. Chavda Maisha parle également de sa vie de footballeur dans ce pays. On les suit.
Heureusement, mon but n'a pas eu sa juste valeur parce que perdre à domicile et marquer un but, je pense que personnellement, ça n'a pas vraiment compté. Mais bon, je suis quand même content personnellement. Mais disons, pour le groupe et pour l'équipe, je suis quand même déçu de perdre à domicile.
Et comment ça se passe là-bas? Est-ce que vous êtes déjà imprégné des réalités du football au niveau de la Zambie? Parce que c'est déjà le deuxième club dans lequel vous êtes en train d'évoluer.
Oui, effectivement, ça se passe bien ici. Quand même, ce qu'il faut dire, que les entraînements sont quand même serrés ici. C'est presque tous les jours qu'on s'entraîne 2 fois. Et on a beaucoup d'entraînements, les entraînements intenses. Alors il y a moins de temps de repos. C'est quand même ce qu'il faut noter, que les gens d'ici sont en train de foncer vers le semi-pro. C'est-à-dire qu'ils donnent des moyens aux joueurs, côté travail, du côté organisation. Et le championnat est vraiment organisé. C'est ce qui est vraiment intéressant. Et ça permet à un joueur de garder le rythme. Et si vous jouez tout un championnat ou même quelques matchs, vous sentez vraiment que vous êtes en pleine compétition. Ça, c'est le côté que j'ai apprécié, parce que côté organisation, ils sont bien organisés.
Préliminaire de la Coupe du Congo de football dans le Congo central, suite de la compétition ce lundi avec des rencontres ici après Asengenge de Madimba contre le Tout, capable BM Sport de Boma, le TP Mazembe de Kasangoulou rencontre Albino de Kisantou. Enfin, 2 clubs de Matadi vont se croiser. Il s'agit du FC Iven et la formation de la Sveti Club. Lors de l'entame de ces préliminaires le samedi dernier, l'Asengenge de Madimba a perdu devant le TP Mazembe de Kasangoulou 0-2. Et puis donc la formation de TP Mazembe de Kasangou, un nul d'un but partout entre le FC Iven de Matadi et Albino de Kisantou. Les autres informations dans notre prochaine intervention.
Merci Enoch Matondo. Ce journal a été supervisé par Ben Kabamba, Suzanne Zoboudra, mise en onde par Jean-Noël Mokondo. Merci à vous qui nous avez suivis. Bon début de semaine à vous tous.